Portrait de toi. Une réalisation pour Erdiwa. Et voilà. Portrait caché, portrait craché, portrait de toi, de toi, de toi et de toi. C'est tout à fait luxe, tout à fait luxe, tout à fait luxe. Une émission dont on pourrait tourner les pages, illustrer.
Tourner la page.
Quand nous nous sommes rencontrés, David et moi, cette fois-ci, pour la deuxième fois, au lieu-dit que l'on appelle le tas de fumier, Rokubo, France, planète Terre, j'ai bien cru un instant seulement, d'un peu de loin, que mon danseur de cordes était un peu agacé, froissé, comment dire, pas très heureux de ce jour malheureux. Mais non, David venait de se réveiller d'une sieste profonde et me dit en fronçant des sourcils qu'il serait bon pour lui de recevoir un petit coup de fouet. Nous nous sommes dirigés vers la cabane au rondin de Grand Pin, le petit théâtre, vous vous souvenez? J'ai bien vu alors qu'ils avaient mis de drôles de carreaux aux fenêtres, ou l'inverse. Le petit théâtre s'était mis en tenue d'hiver et la cuisine d'été était presque vide. À peine installé autour d'une table de bois ronde et ancienne, peut-être venue d'une très vieille gitane connue de lui, David s'est aussitôt levé pour me proposer un verre de vin rouge.
Tu veux un verre de vin rouge ?
C'était une journée encore de soleil pour la saison. Il y avait de la lumière dans les arbres et dans les yeux clairs de David. Par petites gorgées, nous avons parlé, lui avec beaucoup de force, plaisir, goût et de joie, et moi avec un peu de légèreté dans la tête, comme dans le verre. Léger, 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 vague à l'âme. C'était pourtant pas le printemps. Aujourd'hui que cette crise sociale et sanitaire que nous connaissons à l'échelle planétaire révèle toutes les inégalités de revenus, de traitements, de conditions de travail et de vie, Erdiwa vous propose de continuer à faire la connaissance de David Rullier. Un peu enfant, un peu rêveur, un peu danseur, un peu homme, un peu femme, un peu guérisseur. Celui-ci nous emmène là où nous pourrions tous être confinés, mais librement et par choix, cette fois-ci à l'endroit de la joie. Inspirons-nous les uns les autres. Épisode 2, David et la trapéziste.
Inattendu, relevé, inattendu.
Attends,
ouais.
Je sais peu de choses de toi, David, mais on m'a dit que dans le passé, tu avais été artiste au Cirque Plume, notamment. D'abord, c'est vrai?
Bah oui, forcément, c'est vrai, si on te l'a dit. Bah oui, ça aussi, c'est une longue histoire, Vincent. Tu sais, c'était en je sais pas quelle année, au Moyen-Âge, là, j'ai rencontré une trapéziste. Une trapéziste, je ne l'ai pas rencontrée au Cirque Plume, je l'ai rencontrée au Cirque Fratellini. Je traversais les écuries du Cirque Fratellini et je suis tombé sur une créature qui traversait les écuries en serviette de bain. Elle sortait de la douche et nos regards se sont croisés. C'était Véro Gouga. Et voilà, et puis il se trouve qu'un an après, à peu près, on a convolé. Et puis, parce qu'elle était en résidence avec le Cirque Plume à Die, et moi j'étais dans les Hautes-Alpes, on s'est téléphoné, parce que je rêvais d'elle, bien sûr. Et je lui téléphone et elle me dit, ben voilà, je suis en résidence à Die, ni une ni deux, j'attelle mon cheval, mon fier destrier noir. Et je pars des Hautes-Alpes pour rejoindre la Drôme, pour rejoindre Die, le gymnase de Die. Et voilà, je me suis arrêté vers Minglon, là où ils étaient stationnés, où ils étaient en résidence.
Depuis l'enfance, galopant sur l'imaginaire, à l'école des arbres et des oiseaux, et dans les poches, des bouts de ficelle.
Moi, mon premier boulot, ça a été ouvrier agricole. J'ai commencé comme valet de ferme. J'aime bien le terme, valet de ferme. Dans une famille où il y avait le grand-père, la grand-mère, les deux fils, la femme d'un des fils, la fille et le fils, et un autre valet de ferme, Léandre, un vieil espagnol là, qui était en fin de vie. Super gars. J'arrivais à peine à le comprendre, mais on vivait ensemble et puis voilà, on travaillait ensemble. Donc j'allais garder les vaches et tout. Et j'ai fait plein de choses. Je dis garder les vaches, mais j'élevais les cochons. Je me levais à 6h30 du matin pour faire la bornée aux cochons. C'est dans les grandes cuves que tu mets le foyer, hop, tu allumes le feu, tu fous les petites patates que tu as triées la veille, les queues de poireaux, les betteraves à cochons. et tout, et tu fais cuire ça, et c'est ça une odeur pas possible, t'es dans un petit réduit, quoi, et c'est trop bon, t'as juste à peine eu le temps de boire un petit café, là, et hop, donc tu prépares ça, tu vas dans l'écurie, où il y a les cochons, il y a les truies qui te grognent après, parce qu'elles ont des petits, et elles sont furieuses, parce qu'elles les protègent comme pas d'eux, quoi. Voilà. Et dans cette ferme, donc il y avait des cochons, des poules, des lapins, des vaches, il y avait de la vigne, il y avait des arbres, il y avait des légumes, du maraîchage, etc., etc. J'ai appris plein de choses et il y avait notamment un grand cheval, cadet, il s'appelait. Je ne sais pas quelle race, je ne pourrais pas te dire quelle race, de quelle race il était, peu importe, on s'en tape. Mais... Moi, quand je réfléchis, je me dis souvent, mais ils m'ont rien dit, ils m'ont pas appris. J'ai utilisé le cheval sans rien, sans qu'on me transmette. Mes mains, elles faisaient toutes seules, mais ma voix, elle était avec. Elle lui ordonnait des choses. J'ai rien appris. C'était une espèce de transmission d'une vie d'avant, quoi.
C'était instinctif.
Oui, instinctif, ouais. Et puis donc, je partais au champ avec Cadet, avec soit un rouleau pour rouler, pour tasser la terre, soit une charrue, soit une charrette. Et puis je dételais en bas. Et puis quand je remontais, je faisais de la voltige sur son dos. Déjà, c'était le mariage déjà, le mariage de ce monde rural, de ses activités, du travail de la terre avec l'expression artistique déjà de l'acrobatie sur un cheval. Voilà, ça, pour moi, ça dure encore. Je suis encore le cul entre la terre et l'art.
Parce que au même âge, tu étais aussi instinctivement un artiste.
Instinctivement, on va dire. Oui. J'étais acrobate. Je pense que à ma naissance, j'ai dû sortir sur les mains du ventre de ma mère et j'y suis resté. J'ai passé toute ma jeunesse en faisant des équilibres et à marcher sur les mains. Voilà, donc j'étais acrobate. Après, très vite, on montait dans les arbres avec mes frangins, on construisait des cabanes, on était vraiment des singes. Et j'ai pas forcément appris beaucoup l'acrobatie, c'est pareil, c'est instinctif pour moi.
Tournez la page.
Enfant déjà, David et son frère Marco grimpaient haut dans les arbres et s'inventaient dans les branches des numéros d'acrobatie ou des histoires de forêts lointaines et sauvages.
Un jour, je tombe sur un magazine avec un article sur des copain de la fille Fratellini qui développait la voltige. C'était assez particulier ce qu'il faisait. Et donc je tombe sur cet article et deux jours après, je passe à Château Arnoux, à côté de Cisteron, et je vois le Sire Fratellini. Ni une ni deux, je fais quart de tour avec ma bagnole, je m'arrête sur le parking et je fonce sous le chapiteau. Et là, je rencontre Gilles Audjean, il s'appelait. Je lui explique que voilà, je commence la voltige, mais j'ai des problèmes pour mettre mon cheval au galop sur la piste, etc. Il me dit tu vas le chercher, et puis on voit ce qui se passe. Donc, ni une ni deux, je prends mon J7, je vais dans la montagne, j'attrape mon cheval, je le grimpe dans le camion, et je retourne à Château Arnoux, je me gare, je descends le cheval, je vais sous le chapiteau avec, il pleuvait, je m'en souviens. Et là, on met le cheval dans la piste. Voilà, son premier contact avec la sûre, on va dire. Et tout le monde, tous les autres artistes me regardaient. Oulala, ils avaient un peu peur pour moi parce que Gilles Audjean est pas un être pas si facile que ça. Mais bon, voilà, j'étais là et il m'a proposé, quand tu es prêt, il a regardé le cheval et on a regardé un peu ensemble qu'est-ce qu'il fallait faire. Il m'a dit, tu le prépares avec ci et ça. Et quand tu es prêt, tu nous rejoins. Et voilà, quand j'ai estimé être prêt, j'ai construit un pieu qui se rabattait dans le J7, j'ai chargé le cheval et je les ai rejoints. J'ai rejoint le Cirque Fratellini à Sallanches, en Savoie. Et je les ai suivis pendant 4 mois de tournée. On est passé par Mâcon et on a fini à Valence, à un grand stage d'été qu'ils organisaient à l'Épervière. Et à la fin de ce stage, il me propose d'aller à Paris redonner ce que j'ai appris à la porte, entre la porte de Pantin et la porte de la Villette où était stationné le cirque Fratellini. J'ai pas arrêté de regarder et j'ai beaucoup appris comme ça. Et je regardais Véro aussi au trapèze, et elle me décrochait le cœur à chaque fois qu'elle passait. Elle s'accrochait par les talons au trapèze en grand ballant.
Tournez la page.
J'ai tenu 2 mois. J'ai tenu 2 mois. La piste de voltige était sous le périphérique. Et moi, je vivais dans un camion sous le périphérique aussi. Ça veut dire que j'avais pas de nuit, endormi. Et un jour, mon cheval est un peu... Ars, il avait connu que la montagne, comme moi d'ailleurs, la montagne, la campagne. Et on est devenu fou. Lui, une nuit, il s'est détaché, il a mordu tout le monde. Le matin, je vois ça, je me dis, allez hop, c'est bon. Voilà, il y avait ça. Financièrement, j'arrivais pas à décrocher un salaire parce qu'il y avait ça en jeu aussi. Donc voilà, j'ai pris le cheval, je l'ai monté dans le camion et on est reparti. On a rejoint la montagne.
Quelque part sur la planète Terre, libre, ivre.
Et puis, moi, j'ai continué le spectacle, donc, hein, avec Véro et Cirque Plume, tout de suite après.
Tournez la page.
Et donc, de fil en aiguille, moi, j'étais acrobate quand même. J'avais appris la voltige à cheval. Et j'étais à même de faire un numéro d'acrobatie et des fois de prendre mon cheval avec. Ça veut dire que voilà, le Cirque Plume m'a embauché et j'ai créé mon premier numéro d'acrobatie. Et de temps en temps, parce que ça dépendait du budget, je suppose, et des acheteurs, on pouvait prendre le cheval avec moi. Et c'était des grands moments. Quand il y avait le cheval, c'était des grands moments de surprise parce que le Cirque Plume n'avait pas une grande piste à l'époque, ça faisait 8 ou 9 mètres de diamètre. Et je ne pouvais pas faire de voltige comme je l'avais appris. Puisqu'il faut, pour faire ce que j'avais appris, il aurait fallu une piste de 13-14 mètres de diamètre, ce qui aurait été suffisant. Mais là, donc, voilà, j'entrais en piste, je faisais quelques sauts, et puis on me lâchait mon cheval dans la piste qui arrivait et qui prenait l'espace et qui me prenait la vedette. La vedette, voilà, il se pointait. Il allait les deux pieds sur le bord de piste et il allait renifler les mains des enfants qui étaient tout heureux de voir un si gros animal devant eux, comme les reniflant, tout ça. Et il me prenait vraiment la vedette. Et donc après, moi, je m'évertuais à danser autour de lui, sous lui, sur lui. Et puis voilà, quoi. C'était des grands moments.
Quelque part sur la planète Terre, libre, ivre. Ivre de quoi ? Ivre de quoi ? Sans doute de vie, peut-être d'amour. Est-ce cela que l'on appelle la joie ? Vivre ses rêves, rêver sa vie. Et si l'on n'avait plus le choix ? Quelque part sur la planète Terre, libre, ivre, ivre de quoi ?
Bon, ça a été comme ça, j'ai vécu 14 ans, on a vécu 14 ans ensemble, avec Ars, il s'appelait. C'était un étalon mérin, ça.
Et tu l'avais rencontré où, ce cheval ?
Alors, ce cheval, figure-toi que je l'ai rêvé. Je l'ai rêvé. Un an avant que je le vois, que je décide de vivre avec lui, je l'ai rêvé. C'était un rêve éveillé. J'étais à Apt avec un copain en vacances. J'ai eu la vision d'être sur un cheval noir dans un coucher de soleil. Ça paraît assez classique, mais bon, c'est comme ça. J'étais debout sur son dos, en plein galop, dans une plaine torride, noyée par la lumière orangée du soleil, tu vois, couchant. Et puis voilà, je galopais sur son dos, quoi. Et j'étais éveillé. Et bon, pour moi, c'est de l'ordre de la vision. C'est une vision, comme les Indiens et tout le monde, les indianistes en recherche, tu sais, ils partent en quête de vision pendant 4 jours, ils jeûnent, ils boivent pas, ils mangent des champignons hallucinogènes, ils font tout et tout pour arriver. Voilà. Moi, j'ai pas eu besoin de ça. Et il s'est avéré que un an après, voilà, j'ai rencontré ce cheval et on a commencé notre vie ensemble. Ars, le cheval, c'était le premier animal qui arrivait dans cette troupe du Cirque Plume. Et voilà, c'était très important pour toute la troupe. Quand il n'y avait pas le cheval, c'était vraiment assez un peu triste. Je sais qu'on a des souvenirs, oh là là, des bons souvenirs, des souvenirs d'accidents même, des souvenirs de... Je me rappelle la dernière fois que j'ai joué... On était tous en piste au final et on était tous alignés donc à saluer les gens. Et il y a un des artistes, Jacques, le grand Jacques, il était sur échasse. Il me dit, mais David, mais Ars, il est où? Mais je lui dis, il est en coulisses. Mais va le chercher, quoi. Et donc je me précipite dans les coulisses et je vais le chercher. Et le cheval, il m'échappe et il rentre tout seul en piste. Et il rentre par le mauvais rideau, il bouscule Robert Mini, c'était le pianiste, le compositeur de toute la musique des Plumes, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et il renverse Robert, qui a juste eu le temps de tenir son synthé, et puis après il a foncé dans Jacques sur Echasse, qui s'est retrouvé par terre, et puis voilà, il a salué lui. C'était un grand cabotin, mais de première, quoi. Effectivement, il devait être, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils me laissent en coulisses, mais ça va pas, non?
Et c'est comme ça qu'est né le travail de clown en ce qui te concerne?
Ah bah c'est ouais mais le travail de clown il est venu un peu plus tard, mais c'est vrai que ouais c'est bah qui dit cirque dit clown un peu, hein, je pense.
Petit homme amoureux né. Les yeux cloués sur un monde à l'envers, pas mal de
Par qui as-tu été inspiré dans ta vie d'artiste?
Ah, ça c'est. Mais oui, j'ai regardé, j'ai bien regardé Charlie Chaplin et Buster Keaton notamment, qui sont des acrobates, hein, s'il ne faut pas l'oublier. Après, comment détourner l'acte quotidien et en accident comique, c'est le ressort. On est tous à la recherche de ça, d'alléger la lourdeur du quotidien par quelque chose qui nous sort, qui nous envoie, qui nous donne du recul par rapport à cette lourdeur un petit peu. C'est ce qu'ils ont fait, hein, ces gens-là. Ils nous ont montré voilà, tout est on peut prendre des portes imaginaires incroyables, hein. Quand on voit Buster Keaton poursuivi par une foule de flics, on se dit que c'est bon, quoi. Ouais, ils étaient plus, ouais, dans son film, ils sont plus gentils que les CRS maintenant, quoi.
Comment pourrais-tu parler de ce personnage qui est né de cette rencontre entre l'acrobate, le clown et l'ami d'un cheval ou des chevaux?
Tu me demandes de me regarder moi, de regarder où j'en suis là, moi. Ben, je sais que effectivement, je suis construit de tout ça. Les chevaux, ils m'ont beaucoup appris, beaucoup appris. Le fait de transmettre aux hommes m'a beaucoup appris aussi. C'était une espèce de passation du cheval à moi et de moi aux gens. J'ai l'impression que le cheval m'a dit, ben, tu leur dis ça, d'accord, tu leur dis ça, tu leur dis d'arrêter de mettre un mort dans la bouche parce que ça ne sert à rien et que ça ne solutionnera rien du tout, ni des fers aux pieds, ni quoi que ce soit. Ils peuvent venir, dis-leur bien, c'est très important, ils peuvent venir les mains dans les poches et me regarder tout simplement, prendre le temps et me caresser s'ils veulent. Et puis attendre que je leur donne l'accord pour me monter sur le dos. Voilà ce qu'ils me disent.
Et alors, David, tu as pu transmettre, toi, un petit peu de tout ça, ou beaucoup de tout ça, dans quels endroits et auprès de qui ?
Moi, j'ai organisé des stages de voltige, des stages d'acrobatie, des stages de danse. Là, en ce moment, je mène des ateliers de théâtre. Ouais, ce que je voulais dire d'important, c'est de vraiment d'écouter les gens. J'aime bien observer les gens, pas forcément quand ils font des choses, d'ailleurs, ou quand ils disent des choses, non, les observer, voir la magie de l'individu, tout simplement. Comment on est debout, comment on marche, qu'est-ce que c'est que ce corps, chacun est individué, chacun a une spécificité, tout ça. Pour moi, c'est ça le miracle, de regarder avant de proposer de faire des choses, de regarder ça. Après la transmission, qu'est-ce qu'on transmet ? Moi, j'ai l'impression de transmettre ce que les gens savent déjà, et quoi, ce que leur corps savent déjà faire ou penser ou tout ça.
Tu les soutiens dans l'expression de ce qu'ils ont au fond d'eux, dans l'expression de ce que chacun est peut-être.
C'est les inviter tout le monde à être confiant dans son expression, soit gestuelle, physique et intellectuelle, de pouvoir, notamment ouais, les ateliers théâtre, là je sais que je ne demande pas aux gens grand-chose, je leur demande d'être tranquillement naturel pour parler devant un public. Voilà, pour moi ça commence là. Ça commence là, avoir de l'aisance, de l'aisance, d'être confiant en soi, quoi. Juste d'être là et de se dire, ben voilà, je suis spécial, je suis vraiment très individué, je suis différent des autres, mais je peux respirer normalement et puis regarder normalement les gens, ne pas m'enfuir, ne pas prendre de masque. Voilà, moi j'essaye de hop là, d'enlever les pelures, les peaux de saucisson, etc., etc.
Cet homme ne se présente pas en quelques mots imprimés sur une carte de visite. Petit à petit, seconde après seconde, David se dévoile.
Je suis magnétiseur rebouteux, je dirais. Et je fais du théâtre et j'ai fait du clown et tout ça. Ce qui pour moi est force, se rapproche. J'ai été acrobate, je sais que j'ai été amené à me soigner moi-même des entorses et à soigner les copains, effectivement. Donc ça amène une certaine conscience du corps. Qu'est-ce qui est bon pour le corps, et d'être à même de savoir qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a des petits conflits. Donc voilà, moi je pense que effectivement d'avoir été trempé dans la nature très fort, d'avoir touché la terre, touché les arbres. Je suis bûcheron aussi, et j'aime ce boulot, et en ce moment je le pratique un peu. J'ai débardé à cheval aussi, mais d'être dans la forêt et de sentir vraiment comme un individu, un arbre, hein. Bon, d'accord, je les coupe, mais on pourrait me couper moi-même, que ça, voilà, je ne trouverais pas d'inconvénient. Et ça, c'est ça forge, effectivement. C'est toutes les personnes qui viennent au tas de fumier, et les chevaux aussi, je les vois se transformer assez rapidement. Parce qu'il y a ce paramètre nature, et nature qui fait que, quelque chose qui nous imprègne, hein, on ne le sent pas tout à fait au premier abord, mais voilà, ça rentre. Ce matin, je me disais, c'est les lieux qui sont nos propriétaires. On n'est pas propriétaire des lieux. C'est eux vraiment qui nous font, qui nous disent là, vas-y, plante un arbre, là tu devrais mettre une pierre, tu peux mettre ta maison là si tu veux, tu vois, ça serait pas mal. C'est les lieux qui nous disent ça, c'est pas... Moi, j'aime bien inverser les rôles, voir qu'est-ce que ça fait quand on inverse les rôles et pas se mettre l'homme au premier plan, se mettre au premier plan, un peu écouter ce que nous dit notre voisin naturel. Voilà, c'est dans ce sens que... Écouter. Je pense que c'est la base, s'écouter. De prendre le temps, de ne pas se forcer, de ne pas se sentir forcé aussi, de se dégager de tous les assujettissements, je dirais. Moi, pourquoi j'en suis là avec le cheval, c'est parce que j'ai aboli tout assujettissement. Dans la mesure où vous mettez un cheval dans un espace, vous êtes esclave de l'espace et du cheval. C'est ça la santé, c'est prendre la responsabilité, le culot, hein, d'avoir des couilles pour dire non, j'ai pas envie d'être assujetti. C'est ça, la plus grosse, la meilleure santé, je trouve. À n'importe quoi. À la politique, au médical, etc., etc. Et j'en passe, à la religion. Un être libre qui cherche sa liberté et qui la prend, il est en bonne santé, forcément. Mental, physique, spirituel, émotionnel.
Suite au prochain épisode.
J'ai appris la musique sur une drôle de mécanique. Yeah.
C'était Portrait de toi avec David Rullier. Une émission réalisée par Vincent Oran pour Erdiwa. Avec la participation de Mao, merci aux amis, merci à David et à toute sa tribu. À bientôt.
J'ai envie de vous parler de ces moments, de cette vue, de cette jouissance de l'œil. Je me disais ce matin, jouis, regarde et jouis. L'automne est là. L'automne est là. L'automne me remplit. Saison préférée. Ah, ah, ton vent du sud, ton sirocco, ah, ce bois à la paille. Se boire à la paille. Entre deux questions de Vincent, je m'extasie. Yeah, yeah. Sur les bouts de ma vie. Ah, Ai-je tout vécu cela? Est-ce un mirage? Est-ce un rêve? Non! 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 Encore! 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 Encore du rêve! Encore! Encore! Oui! 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 Il est bon de parler! Parler comme on respire, comme on chante, comme on bave. Ah, 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 ah. Jouir.